Chapitre 19. Margaret River et le Sud-Ouest. Après notre circuit dans les espaces immenses du Nord-Ouest, il est temps de retrouver Catherine qui rentre de Californie. Nous prenons ensemble la direction de Margaret River, une petite ville située à quelque 300 km au sud de Perth. Elle est entourée de hautes forêts d'eucalyptus, de coteaux verdoyants, de vignes et d'un littoral sauvage connu pour Surf Point et ses vagues spectaculaires. C'est le lieu de ralliement des surfeurs du monde entier. À notre arrivée, nous découvrons une maison aussi accueillante et chaleureuse que sa propriétaire. Nous faisons connaissance des autres occupants du lieu. La belle et tendre chienne Sacha et son compagnon félin Midnight, au ventre dodu et à l'épais pelage noir et blanc. La maison est entourée d'un vaste et beau jardin rempli de perroquets bariolés, de fleurs et d'arbres aux fruits exotiques. Citrons, pamplemousses, avocats, noix de macadamia, fruits de la passion, etc. Le potager aussi est bien garni. Coriandre à profusion, tomates, pois, betteraves et bien sûr de nombreuses salades. Il en faut pour assasier Catherine. À l'arrière se trouve le domaine des poules rousses qui nous donnent des œufs frais chaque matin. Pour poser nos valises, Catherine nous a réservé le Granny Flat, un confortable studio indépendant de la maison. Ce qui ne nous empêche pas de prendre tous nos repas ensemble et de passer de bonnes soirées au coin du feu, à discuter, lire ou verser une larme devant les aventures de Red Dog, le chien rouge, le chien autostoppeur qui traversa tout Western Australia à la recherche de son maître. Que c'est bon de se sentir chez soi lorsqu'on est de l'autre côté du monde. Lorsque nous arrivons, c'est le début du printemps. Malheureusement, il s'avère que c'est aussi le plus froid et pluvieux depuis de nombreuses années. Nous bravons donc les éléments pour faire de longues balades avec Sacha au bord de l'océan Indien ou dans la forêt d'eucalyptus derrière la maison. Souvent, c'est l'occasion pour les Lossing Kokaburra, sorte de martin-pêcheur australien, de nous suivre longuement de leur rire sardonique. Nous croisons aussi de nombreux kangourous, car ils pullulent dans la campagne et jusque dans certains jardins. Un jour, nous assistons même à un véritable combat entre deux grands mâles. Ils se tournent autour lentement, dans une sorte de balai, se boxant avec les pattes avant ou prenant appui sur leur queue pour donner de grands coups de griffe avec leurs pattes arrière. Catherine nous fait découvrir de nombreuses attractions des alentours. Dans la région d'Augusta, nous nous rendons à Cap Lewin, le point le plus au sud de Western Australia. Un phare se trouve à l'endroit où se rejoignent les océans Indien et Pacifique. Lorsqu'ils arrivèrent en Australie, il y a 40 ans, Catherine et son compagnon Richard en furent les gardiens. Nous visitons également une ferme où d'adorables jeunes kangourous viennent grignoter des carottes dans nos mains et admirons un spectacle d'oiseaux de proie. Sans parler de bons repas dans les vignobles, de la visite d'une ferme en permaculture ou de Busselton Jetty, la plus longue jetée en bois de l'hémisphère sud. Empruntant à nouveau la voiture de Catherine, nous partons quelques jours en direction d'Albanie en passant par Walpole et Denmark. C'est à bord d'un bateau que nous découvrons le Walpole Nornalup National Park, site à la faune et à la flore très protégée depuis sa découverte par un Français, Pierre Bélanger. Nous nous promenons également dans la célèbre vallée des géants, qui abrite des espèces démesurées d'eucalyptus, des jarras, couleur acajou, des maris, dont une résine rouge sang s'écoule du tronc en cas de blessure, et des caries, à l'écorce blanche. Certains peuvent atteindre 90 mètres de haut. Mais l'Australie, ce sont aussi de magnifiques plages de sable blanc, comme celle de Williams Bay à Denmark, sur laquelle nous faisons quelques foulées grelottantes avant de filer profiter des vignobles réputés de la région. Notre escapade se termine par Albanie, la bien nommée Côte de la Pluie. Il s'agit de la plus ancienne colonie britannique d'Australie occidentale, qui fut fondée précipitamment afin de devancer tout projet d'implantation française dans la région. Nous y visitons la baie de l'homme français, où s'établirent les premières firmes baleinières australiennes, et Two People's Bay, où Français et Britanniques réussirent à cohabiter pendant un certain temps. Nous rentrons à Margaret River pour participer à la fête organisée par Catherine en souvenir de Roger. À cette occasion, de nombreux amis se retrouvent autour d'un grand feu de joie allumé dans le jardin. Ce jour-là seulement, comme un clin d'œil, le ciel reste sans nuages. C'est à Rottnest Island que nous terminons en famille notre voyage dans cette partie de l'Australie. Cette toute petite île est située au large de Fremantle. Son nom lui fut donné par les explorateurs hollandais qui crurent y rencontrer d'énormes rats, appelés rot en hollandais. Il s'agissait en fait de marsupiaux dénommés quokkas, mini kangourous très mignons et peu farouches que l'on ne trouve qu'à cet endroit. L'un d'entre eux a même trouvé refuge dans la chambre de Catherine pour s'abriter de la pluie. Appelée Wajimup par les aborigènes, l'île fut pour eux une prison quand ils y furent déportés en masse. Elle est aujourd'hui un lieu populaire de villégiature, avec ses magnifiques criques de sable blanc aux eaux turquoises et ses lacs salés. Comme tous les autres vacanciers, nous y passons d'excellents moments, alternant joyeuses balades en vélo et bons repas. Ce n'est que le dernier jour, en visitant le minuscule musée de l'île, que nous réalisons tout ce qu'elle symbolise. Une prison pour les Noirs, un terrain de jeu pour les Blancs. Après une dernière nuit chez Colin et Mumbo, nous refaisons nos bagages pour partir à Sydney. C'est avec un pansement au cœur que nous quittons la chaleur et la générosité de notre famille australienne.